France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Juan Carlos, tout contre Franco. Épisode 5, conversation dans la montagne. Avec mes parents, nous sommes souvent allés en vacances en Espagne. Plus exactement, dans le Val d'Aran, juste de l'autre côté de la frontière. Il se trouve que c'est dans cette vallée que se situe la station de ski de Baqueira Berret. Une station des Pyrénées, à l'échelle de celle des Alpes, l'une des plus réputées et des plus grandes d'Espagne.
Baqueira Berret, au fond de la vallée, est aujourd'hui la première station des Pyrénées, à la fois par sa capacité, 14 000 lits, et par l'étendue de son domaine skiable. 200 hectares de pistes, répartis sur deux massifs, avec une extension récente vers le Tuc de Berret. Le succès de cet ensemble s'est presque imposé de lui-même. La clientèle, les Catalans de Barcelone à l'origine, est vite devenue française, puis européenne, avec un slogan « Baqueira Berret est la plus alpine des stations pyrénéennes ».
Dans les années 90, pour donner la mesure de son prestige, les Espagnols la décrivaient alors comme « la station du roi d'Espagne », et j'avoue que cela faisait son petit effet. On racontait que quand il venait sur les pistes, on pouvait le voir descendre les flancs de la montagne, encadré de ses gardes du corps qui skiaient autour de lui. Et puis il y avait son chalet. Depuis la route qui montait vers la station, on pouvait apercevoir sa grosse maison, avec son imposant toit en schiste sombre et ses murs en pierre grise. Quand on passait dessous en voiture, on se collait, ma sœur et moi, contre la fenêtre du côté de la route où elle se situait, pour tenter d'apercevoir quelque chose. Une couronne sûrement. Évidemment, on ne voyait rien, sauf éventuellement quelques grosses voitures garées devant. Mais c'était devenu une sorte de tradition, une occupation du trajet. On avait l'impression de passer tout près d'une icône. Dans mon enfance, j'ai le sentiment d'avoir surtout entendu des histoires positives au sujet de Juan Carlos. C'était le roi de la démocratie et c'était le roi qui skiait bien. Il incarnait l'honnêteté profonde d'un homme qui avait rendu le pouvoir à son peuple. On le décrivait comme un homme accessible et en même temps, il était parfaitement glamour sur les pistes noires. Je crois pouvoir dire que c'était un discours relativement consensuel dans les années 80 et 90, même si depuis, des chercheurs et des chercheuses ont quelque peu nuancé cette image positive. Et puis, il y a eu les scandales. Aujourd'hui, parler de son chalet de Baqueira Berret, c'est surtout mentionner qu'il n'était pas à lui, mais que la station le mettait simplement à sa disposition, gratuitement. La famille royale s'en servait comme d'un hôtel, où tout était pris en charge et où personne d'autre n'avait le droit de se rendre. Depuis, plusieurs affaires bien plus graves que celles-ci ont éclaboussé Juan Carlos et une partie de la famille royale. D'ailleurs, il semblerait que le chalet ne soit plus prêté, mais loué, quand Felipe VI s'y rend pour skier à Baqueira. En 30 ans, l'image de Juan Carlos a changé. Pendant longtemps, il a été intouchable, car il avait fait à son peuple le cadeau le plus désirable, celui qui évite d'être enfermé pour ses opinions, celui qui donne à chaque citoyen une voix, le cadeau de la démocratie. Mais si la pente de Juan Carlos le conduisait peut-être à aller vers la démocratie, cela n'a pas forcément été le cas de tout son entourage. C'est ce qu'a démontré ce fameux 23 février 1981, quand des militaires se sont mis à tirer à balles réelles dans l'enceinte des Cortes, avec pour objectif de réinstaller la dictature en Espagne. Certains de ces militaires étaient très proches de Juan Carlos et pensaient que le roi se rangerait du côté des putschistes. Après tout, son grand-père, Alphonse XIII, avait bien adoubé la dictature, on l'a vu, de Primo de Rivera. J'ai appris récemment que c'est précisément dans ce chalet de Baqueira Berret, celui qui nous fascinait tant quand on l'apercevait depuis la route derrière les hauts sapins sombres, que s'est déroulée une conversation ambiguë, quelques jours avant le coup d'État. Le général Armada, vieil ami et complice du roi, gouverneur de la région de Lérida et ancien précepteur de Juan Carlos, avait passé de longues heures en tête-à-tête avec lui. Il était reparti à 3 heures du matin. Or, le général Armada allait être l'une des pièces maîtresses de la tentative de coup. Son atout était précisément sa proximité avec le roi. Il avait affirmé aux autres militaires impliqués que Juan Carlos lui avait certifié qu'il soutiendrait les putschistes en cas de soulèvement militaire. Est-ce un malentendu entre les deux hommes ou une manœuvre d'Armada? Dans tous les cas, on se demande ce qui aurait pu lui donner à croire que le roi soutiendrait un retour de la dictature, ou en tous les cas ne s'y opposerait pas. Armada a-t-il manipulé Juan Carlos? Ou alors est-ce une stratégie de Juan Carlos de dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre? Tout cela revient à interroger une nouvelle fois les motivations profondes de cet homme mystérieux durant la période de la transition démocratique.
Juan Carlos, tout contre Franco. Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Nathalie Salles, attachée de production, Lily Corner. Au nom du Parlement espagnol et du commissaire du roi, nous manifestons à la nation espagnole qui a été proclamé roi, Juan Carlos Bourbon et Bourbon, qui régnera avec le nom de Juan Carlos Ier. Messieurs les procureurs, messieurs les conseillers, avec émotion et dans le souvenir de Franco, vive le roi, vive l'Espagne.
Sophie Babi, vous êtes maîtresse de conférence en histoire à l'Université Bourgogne-Europe, spécialiste de l'histoire espagnole contemporaine. On vous doit notamment les livres « Jugez Franco » à la découverte, ainsi que « Le mythe de la transition pacifique » publié aux éditions de la Casa de Velázquez. Alors, on vient d'entendre la proclamation de Juan Carlos comme roi d'Espagne le 22 novembre 1975. Ça se passe devant les Cortes, le Parlement espagnol. Il fait donc allégeance devant une institution qui est une institution totalement franquiste.
Effectivement, Juan Carlos, en fait, avait été nommé par Franco comme devant être son successeur. Et c'est absolument ce qui se passe, c'est-à-dire que deux jours après la mort de Franco, qui est décédé le 20 novembre, donc le 22 novembre, Juan Carlos est couronné roi d'Espagne, sous le titre donc de Juan Carlos Ier. Le roi Juan Carlos poursuit, en fait, avec les institutions qui étaient déjà présentes, qui avaient déjà été forgées par le général Franco. Preuve en est, il garde comme chef du gouvernement Carlos Arias Navarro, qui était le dernier chef de gouvernement de Franco. Donc il prête serment aux lois fondamentales du régime précédent, il prête serment de loyauté au principe du mouvement national, qui était le parti à la colonne vertébrale du franquisme, et se pose donc là comme le nouveau leader d'une Espagne qui apparemment donc ne va subir aucun changement institutionnel.
Mais est-ce que à cette époque-là, on a le sentiment en Espagne qu'il devient le chef d'un mouvement qui sera un mouvement franquiste, ou est-ce que c'est pas exactement ça qu'on pense?
C'est toute l'interrogation qui se pose à ce moment-là à la société espagnole et au monde entier, de savoir que va faire Juan Carlos. C'est-à-dire, est-ce que Juan Carlos va mener le pays vers le changement, ou est-ce que, au contraire, il va poursuivre un franquisme sans Franco? Voilà, c'est là toute la question. Et en fonction du point de vue où on se place, les avis sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que Juan Carlos, ce qu'il va faire dans les mois qui suivent, c'est notamment des tournées un peu dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis, etc., pour essayer de rencontrer les chefs d'État étrangers.
Et notamment puis, Valéry Giscard d'Estaing, qu'il voit souvent, VGE, visiblement, le prend un petit peu sous son aile, parfois même de façon un peu paternaliste, paraît-il.
Oui, pour essayer en fait de sonder un peu le soutien qu'ils peuvent apporter au régime et aux réformes éventuelles. Donc Juan Carlos fait assez vite des ouvertures en fait à l'égard du peuple, dans des paroles un peu, des formules dans certains discours d'ouverture, tout en donc cherchant le soutien des États étrangers et en même temps devant bien sûr compter sur les institutions du régime et sur les poids lourds du régime précédent.
Est-ce que vous diriez qu'en 1975, le franquisme est fort en Espagne, ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'il est sur le déclin?
Alors, on a coutume de dire que le régime est en crise depuis à peu près deux ans, en particulier depuis l'assassinat en décembre 1973 du chef du gouvernement, qui était l'amiral Luis Carrero Blanco, qui était l'éminence grise de Franco, le premier conseiller soutien de Franco, qui était son chef de gouvernement et qui a été assassiné par l'ETA le 20 décembre 1973. Et depuis, les institutions s'interrogent sur elles-mêmes, en quelque sorte, d'autant que peu de temps après, en avril 1974, 1974. La dictature voisine du Portugal est tombée avec le 25 avril. Donc Franco se retrouve un peu comme le dernier dictateur du sud de l'Europe. Donc le régime est menacé de toutes parts. Donc la violence terroriste de l'ETA est en pleine expansion.
La grande angoisse, c'est précisément de ne pas finir comme les voisins portugais avec une révolution très à gauche, voire même communiste.
Exactement, exactement. La révolution des œillets joue vraiment comme un contre-miroir, comme ce qui ne doit absolument pas advenir en Espagne. Et à partir de ce moment-là, les élites du régime se positionnent, agissent, essayent d'agir pour éviter cela, sachant qu'il y a une contestation populaire croissante dans le pays qui menace effectivement le régime. Cela dit, le régime franquiste est stable.
La transition démocratique en Espagne donne l'impression qu'il existe une rupture franche, un avant et un après très net et presque immédiat entre l'ère franquiste et les débuts du règne de Juan Carlos. En réalité, il semble que les choses se soient passées de manière plus continue. Juan Carlos considère lui-même que Franco n'aurait pas été forcément opposé à un glissement du régime vers la démocratie.
Ce qu'on découvre dans le livre, c'est qu'il était au courant de ce que vous alliez faire.
Tout. Je savais tout, parce que les gens aussi que j'avais, ils étaient du régime, alors
ils
n'avaient qu'à dire ce que je faisais à la maison.
Oui, oui, vous étiez espionné partout.
La reine et moi, on savait qu'ils disaient tout, mais il fallait vivre normalement.
Et il y a même cette anecdote, vous donnez une longue interview aux États-Unis et vous dites, quand je serai roi, je restaurerai la démocratie. Et après, vous allez voir Franco ?
Oui, bon, c'est naturellement, ils ont publié en Espagne. Et le ministre des Affaires étrangères me laisse un message à l'aéroport en disant « Franco, allez, l'interview sur la table. » Alors je me suis dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire ?» Et je suis rentré à la maison, me laver, tout ça, et alors je suis allé le voir. Et il me dit « Comment était le voyage ?» Moi, j'ai dit « Très bien. Écoutez, j'ai mon interview ici et je vais vous la raconter parce que c'est en anglais. » Il me dit « Non, non, asseyez-vous, asseyez-vous. » Et moi, je m'assois et je dis « Bon, maintenant, il va vraiment se fâcher avec moi. » Et il me dit « Altesse, il faut dire là-bas ce qu'on ne peut pas dire ici. Et il faut dire ici ce qu'on ne peut pas dire là-bas. Rien de plus. » Moi, je lui ai dit, mon général, pourquoi est-ce que vous m'aidez pour le futur ? Et il me dit, vous devrez le faire, moi, je ne peux pas le faire. Je disais, bon, il comprend très bien ce que ça va être le futur.
Sophie Babi, dans cet extrait d'un entretien de Juan Carlos donné à Stéphane Bern, qui est un entretien récent, Juan Carlos dit clairement que Franco acceptait l'idée d'une Espagne démocratique et qu'il le lui aurait dit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, ça reste du ressort d'une conversation privée entre Juan Carlos et Franco. En tant qu'historienne, j'attends avec tous mes collègues l'ouverture des archives privées de Franco et éventuellement des comptes rendus de réunions avec Juan Carlos ou avec d'autres types de conseillers pour pouvoir mieux évaluer la posture de Franco à la fin de son régime. Mais on ne peut absolument pas dire que Franco avait prévu que Juan Carlos restaurerait la démocratie et qu'il a laissé faire. N'oublions pas que les dernières exécutions d'opposants politiques ont lieu en septembre 1975, c'est-à-dire 2 mois avant la disparition de Franco, et qu'au contraire, à la fin de son régime, Franco serrait la bride considérablement pour empêcher toute évolution du régime.
Mais cette idée que Franco avait l'intuition que c'est ce qui risquait de se passer, la transition vers la démocratie, en nommant Juan Carlos, est-ce que vous y croyez ? Je veux dire que on est là un peu dans l'ordre de la croyance.
Alors évidemment, la question de la transition à la démocratie était dans toutes les bouches, en tout cas d'une transition politique après la disparition de Franco, et que l'ère était plutôt, bien sûr, à la démocratisation qu'à l'aggravation d'une dictature militaire, quoique en Amérique latine, au même moment, des dictatures militaires prenaient le pouvoir et écrasaient toutes les formes d'opposition. Mais on était en pleine guerre froide, ne l'oublions pas. Donc les formes que cette démocratie pouvait prendre, on pouvait imaginer qu'elles étaient très diverses. Et notamment, par exemple, envisager une démocratie qui accepte le communisme et les partis communistes, c'est-à-dire une véritable démocratie, ça je doute que c'était dans la tête de Franco.
Et est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que ce qui est advenu en Espagne, cette démocratie-là, était dans la tête de Juan Carlos ? Ou est-ce que finalement, il y a eu quelque chose plus opportuniste chez lui et que sa volonté était surtout de se maintenir sur le trône et qu'il a vu qu'il pouvait peut-être pas faire autrement que d'accepter une démocratie large. Là encore, c'est assez difficile, j'imagine, de répondre à cette question. Mais quel est votre sentiment ?
Oui, alors on peut observer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Juan Carlos a effectivement montré donc des signes d'ouverture très précoces et qu'ensuite, il a enfin changé véritablement de cap à l'été 1976 quand il nomme un nouveau chef de gouvernement en le chargeant de la réforme. Après,
il renvoie finalement Arias Navarro, qui l'était le Premier ministre hérité du franquisme.
Exactement.
Directement.
Donc après 6 mois d'immobilisme, il se décide enfin à nommer un nouveau chef de gouvernement, plus jeune, qui est totalement un cadre du régime aussi, du régime antérieur, phalangiste, etc. Mais pragmatique et opportuniste. Donc oui, il y a une part d'opportunisme énorme, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois ? Le peuple a envahi les rues. Le peuple a envahi les rues, réclamant la liberté, réclamant l'autonomie, réclamant la démocratie. Donc Juan Carlos était aussi subissait la pression de la rue et des oppositions pour un changement réel.
Subissait toutes les pressions, la pression de la rue et aussi les pressions des figures du régime qui étaient forcément encore très présentes.
Tout à fait. Mais la nature du régime démocratique qui pouvait être mis en place n'était pas déjà prédéterminée en 1975.
Juan Carlos et Arias Navarro, son premier ministre, qui était déjà en place sous Franco, ne s'entendent pas bien. Ce dernier freine les réformes souhaitées par le roi qui vont vers plus d'ouverture pour la société espagnole. En juillet 1976, Juan Carlos pousse son premier ministre vers la sortie. Il le fait sans doute aussi sous pression des États-Unis, qui incitent fortement le pays à sortir du franquisme, après avoir pourtant soutenu le régime pendant des décennies. L'homme qu'il nomme à sa place est jeune, il est issu du système, mais bien décidé à le réformer. Son nom est Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez était inconnu il y a 2 ans. Aujourd'hui, Premier ministre du roi Juan Carlos, il gouverne l'Espagne. Il n'aime pas la publicité, il n'avait jamais voulu répondre à une interview télévisée. Ce soir, il répond aux questions du correspondant à Madrid d'Antenne 2, Bruno Albin, un portrait que les téléspectateurs espagnols vont suivre en même temps que vous sur les écrans de la télévision ibérique.
Depuis qu'il dirige la politique espagnole, Adolfo Suárez a abattu les pierres d'angle du système franquiste et rétabli le pluralisme des partis, gommé presque complètement 40 ans de dictature. Homme de l'année, non, répond-il, je ne suis que l'artisan d'une politique rendue possible par la couronne et voulue par le peuple.
Je dirais que le protagoniste le plus important de toute l'évolution politique a été le peuple espagnol. Je crois que le peuple espagnol a fait preuve de maturité, de réflexion et d'une sérénité réellement impressionnante. Et qu'il est le grand personnage de la difficile année politique que l'Espagne a connue.
Sophie Babi, Adolfo Suárez, c'est un Premier ministre qui incarne véritablement la transition démocratique. Or, c'est vraiment Juan Carlos qui le choisit. C'est donc un signe de la volonté du roi d'aller vers la démocratie, selon vous ?
Oui, alors il charge effectivement ce jeune cadre, alors dont on dit dans l'archive qu'il n'aimait pas la publicité, c'est un peu paradoxal parce qu'il a quand même été directeur général de la radio-télévision espagnole avant, sous le régime, donc il connaît très très bien les rouages des médias, de la télévision, etc. Et il sait habilement s'en servir tout au long de la transition. Mais oui, c'est un jeune cadre donc phalangiste du mouvement national qui a une quarantaine d'années et qui est très 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 pragmatique, donc en fait qui sait s'adapter sans sentir un peu le vent tourner, sentir les pressions.
Un peu comme Juan Carlos lui-même.
Oui, je pense que là-dessus, effectivement, ils ont bien fonctionné ensemble sur la mise en œuvre progressive des réformes et justement une progressivité qui permet de ménager aussi les forces réactionnaires et conservatrices qui sont très actives et très, très présentes en Espagne, au moins donc jusqu'en 1981. Et ce jeune donc, cadre, Adolfo Suárez, il s'entoure aussi de jeunes ministres. Alors, il y a à la fois des vieux généraux qu'il est difficile d'écarter, mais il y a aussi donc des jeunes ministres avec lesquels il travaille pour mettre en œuvre donc des réformes progressives à la démocratie. La première d'entre elles étant donc de permettre la célébration d'élections législatives libres, mais pour cela il y a tout un tas d'étapes qu'il faut franchir avant.
Est-ce que vous avez le sentiment que les franquistes voient les choses passer sans réagir parce qu'ils ne peuvent pas ? Pourquoi y a-t-il cette sorte de passivité de l'ancien régime, du régime de Franco, vis-à-vis de ce qui constitue une ouverture ?
Alors, il n'y a pas vraiment de passivité, c'est-à-dire qu'en fait, le système politique à ce moment-là, il ne faut pas le comprendre comme un système bipolaire, c'est-à-dire les partisans du régime et puis les opposants au régime. On parle plutôt d'une relation triangulaire, c'est-à-dire qu'au sein du régime, il y a le bunker, c'est-à-dire ceux qui précisément s'opposent à toute forme de réforme.
Donc les très proches de Franco, ceux qui étaient très proches
de lui. Oui, ou en tout cas, les vieux généraux de la guerre civile, ceux qui ne veulent absolument pas modifier, l'extrême droite, qui refuse donc toute forme du changement. Et puis, il y a les réformistes du régime, c'est-à-dire parfois des vieux barons aussi, mais souvent aussi des jeunes cadres, qui acceptent la réforme.
Mmh. Voilà. Dont Suarez, alors, par exemple.
Donc, vers une réforme depuis l'intérieur du régime, donc depuis les institutions, de la ley à la ley, on dit souvent de la loi à la loi, donc refusant toute forme de rupture, d'accord, mais au profit d'une progressivité dans le changement, dont Adolfo Suarez. Et donc, Adolfo Suarez, il négocie d'abord, en fait, avec le bunker pour essayer de le convaincre de la nécessité du changement et qu'il vaut mieux maîtriser, contrôler ce changement que pour éviter toute forme de révolution et un scénario à la portugaise, plutôt que de refuser tout en bloc. Et c'est la première étape donc, qui aboutit au harakiri des Cortés, donc au harakiri du Parlement, c'est-à-dire effectivement convaincre un à un les procurateurs, les membres des Cortés, d'accepter de s'autodétruire en quelque sorte en prévoyant donc des futures élections législatives. Et ensuite, il y a une négociation avec l'opposition.
Et la société espagnole, à ce moment-là, dans ces années 75-80, comment réagit-elle? Est-ce qu'il y a une adhésion à ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a aussi des résistances?
Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que le régime ne reste pas totalement passif. Hein, l'extrême droite est extrêmement active et se lance dans une stratégie violente dans les rues, d'attentats contre les kiosques à journaux, contre la presse, contre les militants de gauche dans la rue, etc. Donc il y a une action violente qui se met en place aussi. Et puis des opérations de putsch qui sont déjà organisées en amont. Et alors la société espagnole, elle est déjà majoritairement très inquiète de l'avenir, c'est-à-dire préoccupée de l'éventualité donc du chaos qui pourrait se produire et avec un souvenir très très fort de la guerre civile, des traumatismes de la guerre civile et de la violence qui est très présent parmi la population. Autrement, la population donc en particulier ouvrière, urbaine, étudiante va dans les rues, envahit les rues pour protester et exiger le changement, donc pousser les gouvernements au changement. Et puis, il y a bien sûr une part, la majorité de la population reste donc relativement dans l'observation de ce qui va se passer, mais soutient, ça on le saura au moment des élections législatives, soutient majoritairement la voie réformiste qui est celle choisie par Adolfo Suarez.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse. Solo a mirarla.
Le 15 octobre 1977, Juan Carlos promulgue une loi d'amnistie. Le roi compte ainsi tourner la page de la dictature et des séquelles de la guerre d'Espagne. Avec cette loi, on efface tout et on recommence comme si de rien n'était. Les prisonniers politiques sont libérés, mais les crimes de la dictature sont également amnistiés. Ce dernier point est d'ailleurs l'angle mort d'un reportage d'Antenne 2 qui se concentre sur la libération des prisonniers sans voir que l'aspect positif de cette loi visant la réconciliation permet aussi de ne pas juger les crimes du franquisme.
Des centaines de personnes ont laissé éclater leur joie hier devant la prison de Carabanchel à Madrid quand les premiers détenus politiques à bénéficier du décret d'amnistie ont retrouvé la liberté. Santiago Alvarez, Simón Montero et José Ruiz, dirigeants des partis communistes espagnols, galiciens et basques, ont été les premiers libérés. Plus tard dans la soirée, six membres de la branche politico-militaire de l'organisation basque ETA ont à leur tour quitté la prison. La libération des membres de l'ETA est très significative. En effet, l'ETA est considérée à Madrid comme une organisation terroriste. C'est donc la preuve que l'amnistie décrétée mardi par le roi Juan Carlos est largement interprétée par les tribunaux espagnols chargés de l'appliquer. On avait craint que les juges, pour la plupart choisis sous le régime franquiste, ne tentent de limiter les libérations de détenus politiques. Or, il semble bien que les tribunaux aient au contraire accédé aux directives du ministre de la Justice qui souhaite une application du décret la plus généreuse possible. Ces images en témoignent.
Sophie Babi, en France, est-ce qu'on n'a pas retenu seulement, avec cette loi, la fin de la répression et peut-être pas tellement vu ce que ça signifiait du côté de l'amnistie aussi des franquistes?
On a entendu une archive qui parle en fait d'un décret d'amnistie qui a été adopté précédemment. Il y a eu plusieurs décrets d'amnistie et puis ensuite une loi qui vient couronner ce processus en octobre 1977. Et l'enjeu numéro un à ce moment-là, c'est vraiment de libérer les prisonniers politiques. Il n'est pas question d'impunité des criminels du franquisme. C'est de fait un article qui est rajouté à cette loi en octobre 1977 qui le rajoute. Mais la preuve en est que ce n'est absolument pas un sujet de débat, que les seuls qui refusent d'adopter, de voter cette loi, ce sont des députés de la droite, très réactionnaires, qui refusent en fait d'amnistier des membres de l'ETA qui ont les mains tachées de sang puisque les attentats ne cessent de frapper en Espagne. Cette notion d'une amnistie mutuelle, réciproque, correspond à un désir profond de la société espagnole et à en fait un paradigme de réconciliation qui était enraciné dans la société espagnole et qui s'était diffusé depuis les années 50, donc depuis à peu près 20 ans en Espagne. Donc en fait, c'était pour cela aussi que ça n'a pas posé de conflit et de débat, parce que ça correspondait à l'idée de mettre fin à la guerre civile 40 ans après sa terminaison officielle.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu réconciliation précisément et que cette loi a aidé à la réconciliation des Espagnols qui avaient la guerre d'Espagne en traumatisme?
Alors, c'est au moment où elle est votée, c'est vraiment des discours extrêmement enthousiastes de la part des députés qui disent voilà, on met fin à 40 ans de conflits, de violences, de déchirements pour construire ensemble le futur. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Donc oui, c'est un réel enthousiasme qui accompagne cette loi d'amnistie et qui a permis de fait la construction de la démocratie et aux Espagnols de vivre ensemble. Mais cette réconciliation s'est faite bien sûr sur l'autel du silence vis-à-vis des violences du passé, vis-à-vis des victimes du passé, et leur voix ne s'est que progressivement fait entendre dans l'espace public un temps plus tard.
Après la loi d'amnistie, Juan Carlos et Adolfo Suárez s'emploient à doter l'Espagne d'une constitution démocratique. Le texte est proposé au vote par référendum le 6 décembre 1978. Et dans le ton élogieux du présentateur, on comprend que ce jeune roi commence à marquer les esprits de façon positive.
Au printemps 77, l'Espagne votait pour ses premières élections législatives. Pour la première fois depuis près d'un demi-siècle, les partis politiques pouvaient faire campagne et s'exprimer en toute liberté. La communauté européenne, qui avait mis comme condition à la future adhésion de l'Espagne au marché commun qu'elle vive en démocratie véritable, allait tout de même d'étonnement en étonnement devant ce roi, Juan Carlos, qui brûlait les étapes de la libéralisation. Eh bien, le roi lui-même a voté aujourd'hui au village d'El Pardo, où résidait le général Franco, à 15 kilomètres de Madrid. Et il a voté en même temps que les électeurs espagnols, ils étaient 25 millions, invités à répondre par oui ou par non à la première constitution démocratique qui leur était proposée, et qui est le couronnement de toute cette évolution qui fait changer l'Espagne, en fait.
Sophie Babi, que retenez-vous de cette archive?
Donc effectivement, le référendum constitutionnel du 6 décembre 1978 est un jour clé qui est célébré chaque année, voilà, comme étant l'incarnation de l'esprit de la transition, donc de l'esprit du consensus, du dialogue, de la tolérance, de la démocratie, de la réconciliation.
Et c'est vrai que de l'extérieur, et on l'entend quand même au ton du journaliste plutôt positif, on a l'impression que la transition démocratique se passe au mieux.
Effectivement, à ce moment-là, c'est un peu l'apogée du modèle de la transition à la démocratie, avec ce 88% de oui au référendum. Et la façon dont le régime a pu se transformer, évoluer de façon qu'on qualifie alors de pacifique, tranquille, sans heurts majeurs, sans révolution ni sans guerre civile, pour aboutir à un régime démocratique, fascine à l'étranger, fascine en Espagne, et va devenir ensuite un modèle vraiment de transition à la démocratie pour les pays d'Amérique latine, pour les pays d'Europe de l'Est dans les années 80-90.
Au début du mois de février 1981, les relations entre Juan Carlos et son premier ministre Adolfo Suárez se sont à présent largement distendues après avoir été très bonnes. Suárez s'est fait des ennemis, il est également fatigué par ses combats des dernières années. Juan Carlos a décidé de le remplacer, mais vers quelle direction emmener le pays après lui ? Dans le chalet de Baqueira Berret, en l'absence de la reine partie rejoindre sa mère mourante, le roi reçoit le général Armada, ancien chef de la maison royale, mais aussi son ancien professeur. Tous deux bavardent durant des heures et, on l'a dit, se couchent très tard. Quelques jours plus tard, Armada est au centre du dispositif qui vise à mettre fin à la démocratie. C'est ce que nous allons vous raconter à présent.
give.